France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
L'Antiquité marque la naissance de la notion d'éther. Pour Aristote, c'est cette substance qui fait la réalité, qui remplit le ciel pour faire nager les planètes. Comment ce concept a-t-il traversé l'histoire des sciences et quelles sont ses résurgences ? De Platon à Descartes, en passant par Newton, chacun a tenté de définir cette entité mystérieuse censée remplir l'espace pour expliquer certains phénomènes. L'éther gravitationnel d'abord, pour l'attraction des corps célestes, puis l'éther luminifère, pour la propagation de la lumière. En 1905, Einstein porte un coup fatal à ce concept. Mais on retrouve dans la physique contemporaine des similitudes, le vide quantique, l'énergie, la matière noire, jusqu'à la théorie de l'espace-temps elle-même. En a-t-on fini avec l'éther ? Rien n'est moins sûr. Théorie de l'espace-temps, le retour à l'éther. Ludovic Ducobu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien théoricien à l'université de Namur et nous devrions être rejoints dans quelques instants par Carlo Rovelli. Carlo Rovelli qui est physicien, philosophe des sciences et membre senior de l'Institut universitaire de France. Alors merci à vous d'être là avec nous en direct dans nos studios à France Culture.
Merci pour l'invitation.
Et merci également à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez également suivre cette émission en nous rejoignant sur Blue Sky tous les jours inlassablement. Nous postons pour vous des ressources, des liens. Tout ça, c'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors, que recouvre la notion d'éther ? Comment les penseurs s'en sont-ils saisis au cours des siècles ? Et sous quelle forme ressurgit-il aujourd'hui ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, Ludovic Ducobu, revenons sur l'acte de naissance. L'éther, c'est dès l'Antiquité.
Oui, tout à fait. L'éther, alors bon, le mot en lui-même, il est assez ancien et pendant un certain temps, il fait référence à de l'air, mais plutôt ce qu'on appellerait, avec des termes peut-être un petit peu modernes, mais la partie supérieure de l'atmosphère, vraiment l'air sous sa forme la plus fine. Et puis, c'est vraiment, je pense, avec Aristote, qu'il rentre vraiment dans l'histoire des sciences sous le sens où on l'entend plus généralement maintenant. C'est-à-dire que Aristote, il en fait un des cinq éléments qui constituent le monde dans sa pensée, en fait.
En effet, l'éther, c'est l'air sous sa forme la plus pure, comme vous dites, la plus éthérée au sens poétique du terme. C'est aussi un concept qui est personnifié dans la mythologie grecque avec le dieu éther. Donc on a quand même quelque chose de l'ordre du divin dans cette notion-là.
Absolument, oui. Mais comme beaucoup de phénomènes naturels à l'époque de l'Antiquité grecque, c'est souvent effectivement personnifié par une divinité. Mais on retrouve ça effectivement aussi dans la pensée d'Aristote, puisque l'éther, donc je disais, c'était un des cinq éléments. Donc les quatre autres, ce sont les plus connus. C'est l'eau, la terre, le feu et l'air. On ne les présente plus. Mais l'éther, lui, effectivement, joue le rôle de... En fait, je dis de cinquième élément parce que les quatre autres sont très connus pour nous à l'heure actuelle. Mais en fait, chez Aristote, l'éther, c'est un peu le premier des éléments, celui qui leur est un peu supérieur et qui est un peu plus parfait, entre guillemets, que les autres. Et donc ça vient certainement de ces considérations un peu religieuse ou un peu mystique à la base. Oui.
Parfait parce que mystique ou parfait parce que justement c'est lui, l'éther, qui permet aux astres leur mouvement régulier ?
Alors, chez Aristote, au niveau de ce qu'on pourrait appeler sa théorie physique, plutôt effectivement parfait parce que il explique le mouvement extrêmement extrêmement régulier des astres. Il faut bien penser que à l'époque, pas de lunettes astronomiques, on observe le ciel par temps clair, mais à l'œil nu. Et donc le mouvement des étoiles et le mouvement des astres comme le soleil, la lune ou les planètes pour celles qu'on peut apercevoir à l'œil nu, semble nous donner au sens littéral du terme des horloges. Pratiquement, ce sont des phénomènes vraiment cycliques qui se répètent saison après saison. Et Aristote se rend bien compte que ce que font ces corps célestes, c'est pas vraiment la même chose que ce que font les objets dans notre vie de tous les jours, quoi. Si je prends, les auditeurs vont le savoir, j'ai un verre d'eau en face de moi, il va pas se mettre à bouger tout seul. Pour qu'il bouge, il va falloir que je le déplace. Et donc Aristote, vraiment c'est très important ça chez lui, cette notion de mouvement en fait. Il déduit un peu, ou il pense la composition des corps en fonction du mouvement qu'il les voit aborder. Et donc, comme les corps célestes semblent être fondamentalement différents dans leur manière de se comporter de ce qui se trouve sur Terre, Aristote fait cette hypothèse qui pour l'époque est vraiment très valable finalement, qu'ils doivent être constitués d'un élément différent. Et là, bah voilà, on arrive à l'éther à cette époque-là.
Oui, c'est ça, c'est que pour Aristote, il y a les mouvements naturels, par exemple l'eau et la terre tombent vers le bas, tandis que le feu et l'air vont vers le haut. Et il y a ce mouvement, il y a les mouvements contraints, et puis ce mouvement circulaire uniforme qui est celui du monde céleste.
Oui, c'est ça. Donc, comme je le disais, chez Aristote, les différents éléments sont là pour expliquer le mouvement des choses. On raconte souvent, enfin, je crois qu'il y a des traces de ça dans ses écrits. On raconte souvent qu'il arrive à sa théorie des quatre premiers éléments d'abord dans notre monde de la vie de tous les jours, qu'on appelle le monde sublunaire chez Aristote. Donc c'est tout ce qui est grosso modo la Terre, l'atmosphère, jusque la Lune, mais sans prendre la Lune, quoi qu'elle est considérée comme un corps céleste. Et donc on raconte souvent qu'il est arrivé à cette idée-là, ben en regardant un feu, en se disant, ben tiens, je vois que là, j'ai le bois, j'ai les bûches, et puis ben les bûches, quand elles se consument, il va me rester de la cendre. La cendre, grosso modo, c'est... Je prends des petits raccourcis, mais c'est pas trop mauvais. C'est comme de la terre. On voit bien que ça tombe, ça reste au sol. Là où la flamme ou la fumée, par exemple, va monter vers le haut. Et donc Aristote se dit, oui, pour expliquer le mouvement des objets, j'ai besoin de ces différents éléments. Et donc il leur attribue des propriétés en fonction de à quel point ils sont denses, plus ou moins lourds. Mais du coup, ça marche bien pour expliquer les phénomènes autour de nous, mais les corps célestes, eux, qui ont quand même déjà dans l'Antiquité grecque quelque chose d'un peu fascinant, ont cette notion un peu de perfection comme ça, et donc sont constitués de ce cinquième élément. On y revient.
Complètement. Alors avant Aristote, Platon utilisait déjà ce terme qui renvoie aussi à l'air. Puis il n'y a pas que les philosophes grecs qui ont réfléchi à cette idée-là. On rencontre des concepts similaires dans les philosophies indiennes et japonaises, mais en tout cas, la pensée d'Aristote a été une immense influence en Europe. Suite à ça, l'éther est devenu quelque chose qui est partout.
Oui, au sens presque littéral, puisqu'on suppose que effectivement l'éther, c'est un peu cette substance qui remplit tout l'univers, donc qui est présente entre tous les corps célestes. Aristote n'aimait pas du tout l'idée du vide, de toute façon. Donc pour lui, il y avait vraiment besoin d'un matériau, de quelque chose, même entre les objets, quoi.
On va faire un grand saut temporel et conceptuel et arriver directement à Descartes au XVIIe siècle, qui lui aussi se penche sur cette notion-là.
Oui, tout à fait. En fait, le concept d'éther, quand on balaye plus de 2000 ans d'histoire des sciences ou de la pensée, forcément, le terme, il est employé à plusieurs époques et dans plusieurs contextes différents. Il ne renvoie pas toujours exactement à la même chose. Il est polysémique, pour employer un de mes beaux mots de vocabulaire que je ne sors pas souvent. Mais donc, plus sérieusement, oui. Descartes, lui, il va parler de ça, effectivement, à une époque où on essaye de mieux comprendre le phénomène de la gravité, en fait. Donc, vous le disiez chez Aristote, la gravité, elle n'existe pas vraiment au sens où on l'entend maintenant, puisqu'on considère qu'un objet qui tombe vers le bas, vers le sol, c'est son mouvement naturel, ça n'a pas vraiment besoin d'une explication. Mais après, avec l'évolution de la pensée, on a un peu changé d'idée là-dessus. Et donc, on est arrivé à cette idée qu'il doit y avoir une interaction, une force qui fait tomber les objets. Et donc, d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Et du coup, effectivement, Descartes, lui, se disait, et il utilisait cette notion d'éther, on dirait ici, comme vous le disiez dans l'introduction, éther gravitationnel, du coup, dans ce cas-là, ça ne renvoie pas tout à fait à la même chose que chez Aristote, mais on dirait que là, l'idée, c'est que c'est un fluide qui est présent dans tout l'espace et qui explique l'attraction des corps, enfin le fait que les corps tombent à la surface de la Terre. Et donc Descartes, lui, il fait ça en imaginant que l'éther tourne autour des corps célestes et que les corps célestes, un peu comme des petits fétus de paille ou des petits bouts de bois flottants, vont être entraînés par le flot d'éther et se retrouver sur l'astre qui les attire. Mais ce n'est pas vraiment une attraction comme on pourrait le penser, c'est vraiment ils suivent le flot, quoi. Ils suivent le courant.
Voilà, ce qu'il faut rappeler, c'est quand même Descartes est copernicien. À l'époque, on ne le dit pas haut et fort au risque de finir sur un bûcher. Et donc, il pense que la Terre tourne bel et bien autour du Soleil et que ce mouvement est dû justement à des tourbillons d'éther.
Oui, tout à fait.
Et en fait, ces tourbillons d'éther, c'est cette nouvelle forme d'éther gravitationnel. Et il va poser des modèles, d'ailleurs, pour élaborer tout ça. Alors, des modèles assez peu élaborés, puisqu'on n'a pas les mathématiques nécessaires à l'époque, mais tout de même...
Oui, c'est ça. Elles sont en train de se développer, en fait. Newton, qui est... j'ai peur de dire une bêtise, mais il est quand même contemporain de Descartes un petit peu. C'est Newton qui va révolutionner un peu les choses avec sa fameuse mécanique newtonienne, le fameux effet Galéma que tous les étudiants de collège et de lycée connaissent bien. Mais donc oui, Descartes lui formule certaines de ses idées un peu avant. C'est ça que je voulais dire. Et donc on est plus sur une idée effectivement un peu qualitative quoi de ce qui va se passer.
Voilà, l'étape importante pour ces questions-là, la transition importante, c'est Newton. On est venu, il y a eu des dates, hein, c'est Principia, c'est 1687. Et là, Newton aussi, hein, lui, il explore l'hypothèse de l'éther pour comprendre l'origine de cette interaction gravitationnelle.
Oui, parce qu'en fait, Newton essaye de comprendre le mouvement des corps célestes. Et forcément, entre Aristote et Newton, il y a eu beaucoup d'avancées, notamment au niveau de la technique. Je parlais tantôt de la lunette astronomique. Elle n'existe pas à l'époque d'Aristote, mais elle existe à l'époque de Newton. Et donc, on commence à avoir des données beaucoup plus fines, finalement, sur le mouvement des astres. Et du coup, Newton va développer certaines de ses idées et arriver à cette fameuse loi de la gravitation universelle pour expliquer les trajectoires des planètes qu'on observe. Et du coup, se pose la question d'où ça vient, ce truc-là. Et Newton, il n'est pas trop fan de l'idée des vortex, donc des tourbillons comme chez Descartes, parce qu'un truc qui est très important dans la mécanique newtonienne, c'est le principe d'inertie qui vous dit que ce qu'on pourrait appeler, si on reprend les termes d'Aristote de manière un peu anachronique, en fait, le mouvement naturel d'un corps, c'est de se déplacer en ligne droite. Et pour qu'il dévie de la ligne droite, il faut quelque chose, il faut une force. C'est pour ça qu'il se dit, du coup, pour que les objets tombent de la manière dont ils tombent, avec une accélération, il faut une force. Bon. Donc, des tourbillons d'éther, ce n'est pas très séduisant pour lui, parce qu'il faut se demander, en fait, qu'est-ce qui les fait tourner? Ils ne peuvent pas tourner tout seuls, ce n'est pas logique. Et donc, Newton, avec un autre collaborateur qui s'appelle Fascio, je ne suis pas sûr que je le prononce bien, et un autre physicien qui, lui, va travailler indépendamment des deux autres, mais il va faire à peu près les mêmes idées, il s'appelle Le Sage, ils vont arriver à un modèle où on se dit, il y a l'éther, on va essayer d'expliquer la force gravitationnelle avec. Simplement, ça ne tourne pas, ça s'écoule en direction de la Terre, ou on pourrait dire d'un astre en général, mais en ligne droite, c'est-à-dire dans toutes les directions, vous avez un flot d'éther qui va venir s'écraser, entre guillemets, ou en tout cas couler vers la Terre, de manière tout à fait régulière. Donc tout à fait stationnaire, on dirait. Et donc, il y a deux petites choses importantes dans ce mécanisme-là, c'est qu'il y a un flux d'éther qui arrive vers la Terre. Au contact de l'astre, il y a une partie, on n'explique pas très bien comment à ma connaissance, mais qui va être réfléchie, donc qui va repartir en sens inverse, mais une partie plus petite. Et donc, grosso modo, comme vous avez plus de particules qui arrivent que de particules qui repartent, finalement, vous avez un flux net, on pourrait appeler ça comme ça, de particules qui vont vers l'astre, qui se rapproche de la Terre. Et donc, l'idée de ce modèle-là, j'en arrive au point important, c'est que du coup, c'est ce flot d'éther qui, en fait, pousse les objets et les pousse en direction du corps.
Voilà. On est donc dans un concept d'éther statique, mais qui se comporte comme un milieu élastique.
En fait, dans ce modèle-là, elle est pas tout à fait statique. Justement, elle s'écoule, et ça pose quelques problèmes, parce que on se demande d'où viennent ces particules. S'il y a des particules qui arrivent en permanence sur Terre, depuis entre guillemets la nuit des temps, on a besoin d'un nombre infini de particules pour faire ça. Sinon, au bout d'un moment, la gravité s'arrêterait entre guillemets, et ça marche pas. Et donc ça, c'est une des raisons qui amène Newton à abandonner cette première idée et à en venir à ce que vous disiez ici, à l'idée d'un modèle où du coup c'est toujours l'éther qui explique la gravité, mais on va faire en sorte qu'elle se déplace pas. Comme ça, si elle est juste là, qu'elle bouge pas, il y a plus vraiment de paradoxe entre guillemets. Et donc là, effectivement, Newton essaye de développer une idée de l'éther comme étant un milieu élastique qui va en fait réagir à la présence des corps. Et donc quand vous avez juste du vide, du coup il y a pas du vide, il y a l'éther, mais elle va être tout à fait homogène, la même partout. Et en présence d'un corps, Newton il fait des petits calculs avec ça pour retrouver vraiment de manière assez précise certains phénomènes. Il se dit l'éther, elle doit s'écarter, entre guillemets, à la présence du corps, comme ça, un peu comme quand on met une goutte d'eau et qu'il y a du savon, comme ça, avec le savon fout le camp sur les côtés. L'éther, elle va faire en sorte d'être moins dense à proximité des corps et plus dense plus éloignées, on va dire. Et ça, du coup, ça va faire que la concentration d'éther et la pression, du coup, dans ce fluide d'éther sera pas le même partout. Et donc, en général, quand il y a une pression qui est plus importante dans une région et moins importante dans une autre région, bah, ça crée une réaction nette, on va dire, qui pousse les objets. Et donc, dans ce modèle où l'éther ne bouge pas, où elle agit comme un milieu élastique, bah, c'est vraiment ce qu'on appellerait, avec les termes techniques, le gradient de concentration qui va, générer ce qu'on va interpréter comme la force de gravité.
Alors comment de l'éther gravitationnel est-on passé à l'éther luminifère et comment Albert Einstein a-t-il participé à sa mise à mort avec la relativité restreinte jusqu'à la faire ressusciter avec la relativité générale? On poursuit.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, avec Ludovic Ducobu, nous parlons de l'éther et son évolution historique. L'idée d'éther est donc née comme hypothèse d'un milieu. Voilà, c'est ce milieu qui a rempli l'espace. Chez Aristote, c'est un cinquième élément céleste, la composante du monde supralunaire, un cinquième élément dans lequel baigneraient les corps célestes. Donc, et puis il y a eu Descartes, puis Newton. Au 19e siècle, on fait de nombreuses découvertes sur la nature de la lumière. On a notamment l'expérience de Thomas Young, 1801, qui révèle son caractère ondulatoire. Mais on a aussi, avec les équations de Maxwell, la lumière qui est enfin comprise comme une onde électromagnétique. Mais le fait que la lumière soit une onde, bah ça soulève pas mal de questions. Dans quoi la lumière se propage-t-elle, Ludovic Ducobu?
Mais absolument, c'est une excellente introduction à cette question-là, je dois dire. Parce qu'effectivement, on a appris dès le début du 19e siècle énormément de choses sur la lumière. Et bah, effectivement, si la lumière est une onde, à l'époque, on pense que nécessairement, il faut un milieu pour qu'elle se propage. Et ça... Pour l'époque, c'est très très normal en fait de réfléchir comme ça, parce qu'avec l'état actuel des connaissances, la physique des ondes commence à être quand même étudiée et connue. Mais ce qu'on connaît à l'époque, c'est ce qu'on appelle les ondes mécaniques. Donc, par exemple, si j'agite une corde que je la tiens à une extrémité et un camarade à une autre extrémité, si je l'agite, il y a une onde qui peut s'établir dedans. On étudie aussi déjà
le son, les vagues, voilà, le de son, l'eau, exactement. Quand on jette un caillou dedans.
Ce sont tous des phénomènes qui n'ont pas de sens. Si on enlève le milieu, si j'enlève l'eau, il y a plus de vaguelettes dans l'eau quand je jette mon caillou. Si j'enlève l'air, le son ne peut pas se propager. Et donc une onde qui existe sans un milieu dans lequel elle pourrait se propager, à l'époque, ça paraît pas possible. Or la lumière, on sait bien qu'elle doit se propager pas juste dans l'air. Pourquoi ? Parce qu'il y a le soleil. On voit la lumière du soleil. Or, on sait bien que le soleil, il est à des distances énormes de nous. Et on se doute bien, déjà à l'époque, c'est pas une question que j'ai creusée très en détail, mais on sait bien qu'il n'y a pas de l'atmosphère de la Terre jusqu'au soleil. Les distances sont beaucoup trop grandes. Donc ça veut dire que sur une énorme partie de son trajet, la lumière du soleil, elle ne se propage pas dans l'air. Donc elle se propage dans quoi ? Et on revient sur cette idée de, entre la Terre et les corps célestes, qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, on se dit, il y a l'éther. Tout va bien, entre guillemets, parce qu'elle est présente quand même depuis un certain temps dans la pensée. Mais donc effectivement, là, on pourrait dire que c'est encore un autre type, entre guillemets, d'éther, ce qu'on appelle du coup l'éther luminifère, et qui est là pour dire, si la lumière est une onde, qu'est-ce qui lui permet de se propager ? Ça doit sûrement être l'éther.
Et donc, on a cherché à savoir comment détecter cet éther luminifère, et on a eu pas mal d'expériences qui ont vu le jour pour justement essayer de mettre la main dessus.
Parce qu'il y a aussi, c'est lié aux expériences qu'on a réalisées, il y a aussi une question importante qui se posait par rapport à la lumière. Vous le disiez, on a commencé à comprendre avec les travaux de Maxwell et plus tard, quelques années plus tard, avec les expériences de Hertz, que la lumière, c'était une onde électromagnétique. Et ce que font les équations de Maxwell très bien, c'est qu'elles vous prédisent la vitesse à laquelle cette onde doit se déplacer. Et donc ça, c'est la vitesse de la lumière. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on comprend encore les phénomènes physiques avec la mécanique de Newton, qui fonctionne excellemment bien pour plein de trucs. Et dans la mécanique de Newton, il y a un point très important, c'est qu'une vitesse, c'est jamais absolu, comme on dit. C'est-à-dire que C'est un peu comme quand vous êtes en voiture, si vous voulez. Vous vous dites, OK, je suis à 120 sur l'autoroute. Mais si vous êtes dans l'habitacle et qu'il y a un livre posé à côté de vous, vous ne le voyez pas bouger. Vous avez l'impression que sa vitesse est nulle. Pourtant, vous êtes tous les deux à 120 sur l'autoroute. De même, si une voiture vous dépasse, ben, en général, ça veut dire qu'elle fait, je ne sais pas, du 130, du 140, mais vous ne la voyez pas passer à 140 à l'heure. Vous la voyez vous dépasser à pas d'homme ou un petit peu plus vite. Et donc ça, c'est grosso modo ce qui se cache là derrière en termes... technique, c'est ce qu'on appelle la loi d'addition des vitesses et qui vous dit du coup, ben, un objet il se déplace à une certaine vitesse. Oui, mais dans ce qu'on appelle un certain référentiel. Par exemple, ben, si je suis à l'intérieur de la voiture, je ne vois pas mon livre bouger. Mais si quelqu'un est sur le bord de la route, il va avoir l'impression que mon livre, ben, comme moi avec la voiture, il va à 120 à l'heure. Alors, quel rapport avec la lumière ? Ben, les équations de Maxwell, elles nous disent la lumière, elle va à telle vitesse, à peu près les 300 000 km par seconde qu'on connaît bien. Mais du coup, les physiciens et un peu tout le monde étaient en droit de se demander, mais dans quel référentiel ? Où est-ce qu'il faut regarder ? Parce que si on se déplace par rapport à la source, par exemple, de la lumière, on devrait la voir aller à une vitesse différente.
Et donc justement, avec cette question de la vitesse lumière et de son référentiel, la plus célèbre des expériences, on y vient, c'est celle de Michelson et Morley en 1896.
Voilà, exactement, parce que eux, ils ont l'idée de se dire, ben, s'il y a l'éther, qui est le milieu dans lequel la lumière se propage, ben, la vitesse de la lumière, ce fameux 300 000 km par seconde que Maxwell nous prédit, etc., ben, ça doit être par rapport à l'éther. De la même manière que quand on parle de la vitesse du son, si vous voulez, c'est la vitesse à laquelle le son se propage dans l'air, c'est-à-dire dans une pièce où l'air ne bouge pas. Ben là, c'est un peu la même idée. Si on regarde dans l'espace par rapport à l'éther qui ne bouge pas, on pense, ben, ça, c'est la vitesse de la lumière. Sauf que la Terre, on le sait, elle tourne autour du Soleil. À l'époque, c'est déjà beaucoup plus admis.
Ça, on le sait, oui.
Mais du coup, si la Terre se déplace autour du Soleil, alors il y avait des arguments, là encore, il faudrait creuser un petit peu de mon côté, j'avoue, mais qui disaient que le Soleil avait de bonnes raisons de ne pas trop se déplacer, lui, par rapport à l'éther. Et donc, on avait toutes les raisons de penser que la Terre, elle, se déplaçant par rapport au Soleil, ben, elle allait se déplacer par rapport à l'éther. Du coup, on reprend la même idée que tantôt pour la voiture, on l'applique à la lumière, on se dit, mais alors, si je fais une expérience de laboratoire où je mesure très finement la vitesse de la lumière, je devrais pouvoir voir des différences. Et donc, c'est ce que essaye de faire avec ce qu'on appelle un interféromètre. Je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer ce que c'est, mais c'est une expérience vraiment fascinante. C'est que, comme la lumière, c'est une onde, ça a la possibilité de faire un truc que les ondes font très bien, c'est des interférences. Et l'idée de l'expérience de Michelson et Morley, c'est vraiment ça. Il faut imaginer avoir un laser avec lequel on va envoyer de la lumière. Et on va envoyer de la lumière tout d'abord sur un miroir. Mais le miroir, il a deux propriétés importantes. Il n'est pas dirigé juste en face du laser. Il est incliné, grosso modo, à 45 degrés. Donc, il est de biais. Et c'est ce qu'on appelle un miroir semi-réfléchissant. Donc, il y a une partie de la lumière qui va être réfléchie comme sur un miroir normal. Mais il y a quand même une partie qui va passer au travers. Et donc ça fait qu'à partir d'un seul laser, on se retrouve avec deux lasers un peu plus faibles en intensité, mais qui partent pas dans les mêmes directions. Parce qu'il y en a un qui a continué tout droit et l'autre qui a été réfléchi par le miroir. Et donc ces deux lasers auxiliaires, on pourrait dire, ils se propagent dans des directions perpendiculaires. En général, on s'arrange. Et puis là, on met un vrai miroir qui va les réfléchir pour qu'ils reviennent au même endroit. Et ce qui se passe, du coup, c'est qu'à l'aide du premier miroir, on va pouvoir recombiner les deux parties et on va regarder ce qui se passe. Et l'idée, c'est que si sur un des deux trajets, ce qu'on appelle un des deux bras, la lumière a dû soit parcourir une distance plus grande, soit se déplacer à une vitesse différente, elle va avoir mis plus de temps à revenir d'un côté que de l'autre. Et si elle a mis plus de temps à revenir d'un côté que de l'autre, eh bien, les deux parties de l'onde vont être ce qu'on appelle déphasées. Elles n'auront pas suivi le même trajet, donc elles ne vont pas arriver en même temps de la même façon. Et là, on s'attend du coup à ce qu'il y ait des interférences qui apparaissent. Et du coup, à partir des propriétés de ces figures d'interférence, c'est des trucs très jolis et qu'on peut mesurer très finement, on peut avoir une idée de la différence de vitesse, en gros, entre les deux bras, comme on appelle ça. Et Michelson et Morley font l'expérience, et je ne tiens pas le suspense trop longtemps, ils n'observent rien.
En tout cas, merci. Vous venez d'expliquer de façon très lumineuse en quoi consiste l'interférométrie, qui est aussi le même principe qui est utilisé pour débusquer des ondes gravitationnelles, mais ça n'est pas notre sujet. Résultat donc, la vitesse de la lumière a une vitesse constante, ce qui montre que l'éther n'existe pas, mais le coup fatal, la mise à mort de l'éther, c'est Einstein.
Mesurons la distinction qui existait avant Einstein entre les notions d'espace et de temps. Les philosophes les distinguaient en de lumineuses formules. Pour Leibniz, L'espace est l'ordre des coexistants, le temps est l'ordre des phénomènes successifs. Kant fait de l'espace une forme a priori de la sensibilité externe et du temps la forme a priori de la sensibilité interne. Bergson oppose encore l'intelligence du géomètre qui contemple les phénomènes extérieurs et l'intuition du philosophe qui connaît son être intime par une méditation du temps qui dure en lui. Les anciens, la science newtonienne elle-même, s'appuie sur la notion d'un espace absolu, sur la notion d'un temps absolu. Donc, espace et temps sont absolument indépendants. Mais, à la fin du siècle dernier, du fait d'expériences d'une extrême délicatesse, les expériences de Michelson, Lorentz suggère des formules où temps et espace sont en légère corrélation. Einstein achève cette corrélation. Il fonde la doctrine de l'espace-temps avec un trait d'union entre espace et temps. Sans doute, le lien est ténu, mais il suffit pour détruire le caractère absolu de l'espace et en même temps le caractère absolu du temps.
Le limpide et lumineux Gaston Bachelard dans l'émission L'heure de culture française sur la RDF en 1955. Alors pour compléter cette archive, Ludovic Ducobu, comment justement Einstein en 1905 avec la relativité restreinte finalement assassine-t-il la notion d'éther tout court?
Mais en fait, donc une fois qu'on repart de l'expérience de Michelson et Morley, on n'observe pas ce qu'on s'attend à observer. Et ça, en science, c'est généralement une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu'on va apprendre quelque chose de nouveau sur le fonctionnement de la nature. Et donc, ben, en fait, on ne mesure pas cette vitesse de l'éther, où on s'attendait à mesurer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther, puisque c'est elle qui bouge, mais ça ne change pas grand-chose. En tout cas, on ne mesure rien. Et donc, le premier réflexe, et c'est ce que, je pense, Michelson et Morley font dans leur étude, ils disent ben, peut-être que ça veut dire qu'en fait, la Terre, c'est la Terre qui est au repos par rapport à l'éther. Et donc, on ne mesure pas de vitesse, parce qu'en fait, on mesure juste une vitesse nulle, quoi. Les deux sont au repos l'un par rapport à l'autre. Bon. C'est une hypothèse, mais c'est quand même un peu difficile à avaler, puisqu'on sait que la Terre bouge et qu'il y a d'autres arguments qui font que bah, on s'attendrait quand même à mesurer cette vitesse. Et donc, comme c'était très joliment expliqué dans l'extrait, il y a plein de travaux qui sont réalisés, notamment par les physiciens Lorentz et Fitzgerald, qui sont restés un peu connus, enfin pas que pour ça, mais notamment pour ça. Ils arrivent à expliquer un peu ces phénomènes en introduisant des nouvelles formules dans lesquelles, effectivement, contrairement à ce qui se faisait avant, on doit mélanger un petit peu les variables d'espace et de temps, donc la position du rayon lumineux et l'instant auquel on observe les choses. Et du coup, ils arrivent à des équations qui mathématiquement fonctionnent, mais ils ont du mal à les interpréter. Parce que, comme c'était rappelé aussi très bien dans l'extrait, à l'époque, on pense que le temps, c'est quelque chose d'absolu. C'est-à-dire que bah, tout le monde dans le monde, dans l'univers, je devrais dire, mesure l'écoulement du temps de la même façon. Et donc, bah, ce temps auxiliaire qui apparaît dans l'équation, on ne sait pas trop quoi en faire. Et donc, Lorentz, il dit, grosso modo, si je simplifie un peu, c'est rien, c'est juste des maths. Et puis, il vient après lui Poincaré, qui lui commence à se dire, ben, en fait, non, c'est peut-être vraiment le temps que mesurerait une montre, mais si on était en mouvement par rapport à l'éther. Et Einstein arrive, je finis ma petite parenthèse, désolé, mais j'arrive par la bande, mais Einstein arrive, lui, en disant, ben, en fait, non. Finalement, si toutes les lois de la physique, si tous les phénomènes qu'on peut observer empêchent vraiment de détecter l'éther. Parce que, grosso modo, on s'attendait à uniquement avoir une chance de la détecter en détectant son mouvement. Et là, on en arrive à développer un peu des hypothèses pour expliquer que bah, finalement, on ne pourra jamais détecter son mouvement. Et donc Einstein dit, bah, elle a perdu sa dernière propriété physique qu'on pouvait espérer tester. Donc, bah, c'est que ce concept-là, probablement qu'il n'existe pas, en fait.
Tout simplement. Et là, c'est Carlo Rovelli qui arrive. Et bonjour et bienvenue, Carlo Rovelli.
Bonjour, merci de m'accepter, même si en retard.
Bon, mais je vous en prie, vous êtes toujours le bienvenu avec nous. On vient vous venez de l'entendre. Nous parlons d'Einstein. On était à la relativité restreinte qui rend la notion d'éther complètement inutile puisque la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs en mouvement uniforme et elle n'a donc pas besoin d'un milieu de propagation. Fin de l'éther, mais en 1915, avec la relativité générale, on peut dire qu'Einstein réincarne dans l'éther, l'espace-temps, l'éther, il y a des similitudes quand même, Carlo Rovelli.
Oui, il y a des similitudes. Bien sûr, le mot éther peut être utilisé pour désigner plusieurs choses. Comme nous venons d'entendre, ce que désignait avant 1905, quand on le prenait sérieux, c'est une espèce de substance qui choisit un système de référence privilégié, c'est-à-dire une référence par laquelle on peut dire des choses qui ne sont pas en train de bouger. L'éther est un peu comme la Terre sous nos pieds et dans l'espace. Donc, l'idée, c'était que il y a cette éther qui est une substance, les ondes électromagnétiques sont des oscillations de cette substance. Et cette substance a un mouvement propre, donc elle définit une référence privilégiée. Ce que Einstein a fait en 1905, il a détruit cette idée et il a montré qu'on n'a pas besoin de ça. On peut retourner à l'invariance de Galilée, finalement, l'invariance qui nous dit qu'il n'y a pas de système de référence privilégié, et tout fonctionne merveilleusement, même avec l'électromagnétisme, au prix de changer notre notion de simultanéité. En 1915, il y a un passage crucial, c'est-à-dire la structure, pas de l'espace, de l'espace-temps maintenant, qui finalement avait été introduite par Newton il y a des siècles et qui avait été changée par Einstein en 1905, pour devenir non pas une géométrie de l'espace, mais une géométrie de l'espace-temps, cette même structure, maintenant, Einstein la réinterprète comme un champ physique, comme quelque chose de réel, une espèce de frère du champ électromagnétique. Einstein était, bien sûr, sous l'influence énorme de la pensée de Maxwell et Faraday, qui avait introduit l'électromagnétisme, donc l'existence des champs, qui sont des objets réels, des quantités réelles diffuses dans l'espace. Et donc, il comprend que la géométrie de l'espace et la géométrie du temps, elle est quand même elle-même donnée par un champ. Cette champ prend certaines des propriétés de l'éther ancien. Parce que maintenant, c'est une chose, c'est une entité, c'est quelque chose qui a une dynamique, qui peut bouger, qui peut devenir courbe, peut être plus compressé, moins compressé, a toute une dynamique propre. Donc, c'est une espèce de substance. Et c'est une substance espace-temps. Donc, c'est un peu l'espace, c'est une chose réelle maintenant, mais elle ne définit pas une référentielle privilégiée. Donc, il n'est pas l'éther dans le sens d'une substance qui définit une référentielle privilégiée.
Oui, voilà, c'est que, à la différence de Descartes, il n'en fait pas une substance, son espace-temps reprend une partie des caractéristiques de l'éther historique, une élasticité qui évolue au gré de la masse et d'énergie des objets. Alors, a-t-on vraiment tourné la page de l'éther ? Restez avec nous. Space Time de Sobo en direct sur France Culture, car nous parlons de l'espace-temps. Est-il un nouvel éther ? C'est la question qu'on pose à nos deux invités du jour, Ludovic Ducobu, physicien théoricien à l'université de Namur, et Carlo Rovelli, physicien et philosophe des sciences, membre senior de l'Institut universitaire de France et cofondateur de la théorie de la gravitation quantique à boucle. On vient de voir que de l'éther d'Aristote au tourbillon de Descartes, l'idée d'un milieu qui remplit l'espace a longtemps servi à expliquer gravité et lumière. Et puis Einstein. Einstein, avec justement sa théorie de l'espace-temps, Carlo Rovelli, il utilisait même le terme d'éther relativiste comme une sorte de synonyme d'espace-temps.
Oui, c'est une sorte de synonyme d'espace-temps, mais bien sûr, ce n'est pas l'éther de Lorentz et avant de la réalité restreinte. C'est une substance qui remplisse l'espace-temps, mais qui ne choisit pas un système de référentiel privilégié. Donc, a des caractéristiques un peu plus différentes que l'éther précédent. Mais il a des choses en commun avec l'éther, parce que c'est la substance qui est partout, c'est le champ gravitationnel. C'est un champ, c'est une chose réelle qui est partout, et les propriétés duquel sont la même chose que les propriétés géométriques de l'espace, et ce qui détermine comment les montres, les horloges progressent et quelle est la longueur des règles que nous utilisons pour mesurer les choses.
Alors, autre chose en commun avec l'éther, aujourd'hui, on peut aussi finalement interroger dans quelle mesure la matière noire, l'énergie noire, le vide quantique peuvent plus ou moins correspondre à ce qu'on appelle des éthers-like. Alors, l'énergie noire d'abord, Ludovic Ducobu, alors c'est pas un éther au sens classique, mais...
Non, c'est pas un éther au sens classique. Disons que ça ressemble un peu à un concept comme l'éther si on se dit, finalement, l'éther, si on le prend au sens de, c'est... une entité dont on suppose l'existence pour nous aider à expliquer des phénomènes. C'est vraiment en ce sens-là, peut-être, qu'on peut faire un parallèle. Vous avez dit énergie noire ou matière noire ?
J'ai dit énergie noire pour commencer, mais...
Non, c'est très bien, oui, mais du coup, il ne faut pas que je parle de l'autre.
matière noire, c'est aussi le nom qu'on donne à des choses qu'on ne comprend pas. En fait.
Oui, c'est parce que les deux vont un peu de pair, mais donc pour rester sur l'énergie noire, effectivement, grâce à la théorie de la relativité générale, on comprend que, comme M. Rovelli l'a très bien expliqué, l'espace-temps a des propriétés dynamiques et donc les propriétés de l'espace et de l'écoulement du temps peuvent varier. Et surtout, l'espace-temps, du coup, ce mélange de l'espace et du temps, peut changer. Ce qui n'était pas vraiment le cas, même dans la relativité restreinte, l'espace-temps qu'on appelle de Minkowski, donc celui de la relativité restreinte, il est vraiment figé, il bouge pas. Avec la relativité générale, on comprend que, en fait, si l'espace-temps, il peut évoluer, et du coup, on en arrive, on peut arriver à l'idée que l'espace-temps lui-même, il va s'étendre au cours du temps. Et petite parenthèse, c'est quelque chose dont on a des traces expérimentales aussi à l'époque. Donc tout ça se répond. Mais sauf que une fois qu'on a conscience de cette expansion de l'univers, déjà ça file un peu le vertige, mais on essaye de la mesurer plus précisément. Et dans les années 90, pardon, je arrive de Belgique.
On se
rend compte que l'expansion de l'univers, elle est accélérée. C'est-à-dire que non seulement il s'étend, mais il s'étend de plus en plus vite. Et ça, la relativité générale toute seule, elle peine à l'expliquer. Et donc, on se dit, il doit y avoir quelque chose en plus qui explique le fait que l'expansion soit là, mais en plus accélérée. Et c'est ça, un peu, qui joue le rôle de l'énergie noire. On l'appelle noire justement parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où elle vient, mais on a besoin de cette énergie.
Voilà, l'énergie noire, c'est le nom qu'on donne au fait qu'il existe cette force. Mais l'énergie noire, la matière noire, aucune de ces hypothèses ne ressemble vraiment à l'éther classique. En revanche, Carlo Rovelli, le vide quantique des théories des champs, ça possède des similitudes avec l'ancienne notion d'éther.
Encore une fois, quelque chose en commun et quelque chose différent. Et la chose que je dirais, c'est dire aux physiciens, c'est différent, c'est ce que nous venons d'entendre. L'éther de Lorentz, de Poincaré, c'était un éther qui choisit un référentiel principal. On peut dire... si moi je bouge pas et vous avez une vitesse par rapport à moi de 10 km par seconde, on pensait qu'on pouvait dire moi je bouge pas par rapport à l'éther et vous bougez par rapport à l'éther. Par contre, toutes les réalisations suivantes de l'éther, le champ gravitationnel, le vide quantique, n'ont pas cette propriété. Donc ce sont des choses réelles qui remplissent l'espace dans la physique contemporaine. C'est pas des choses étranges seulement mathématiques, c'est la représentation de quelque chose de réel, mais qui a la propriété de ne pas faire une distinction entre ce qui est un mouvement par rapport à soi, ou ce qui n'est pas un mouvement, vitesse constante, par rapport à soi. Donc, le vide quantique de la théorie des champs, c'est-à-dire ce qu'il y a autour de nous, en général, quand on ne voit pas des objets ou un électron qui passe, ce vide quantique est plein de propriétés, très riche dans ce sens, il est en commun avec l'éther, sauf celle-là. Et quelles sont ces quantités, ces propriétés du vide? Elles sont les suivantes. Si je fais une expérience et j'ai un appareil assez grand qui me dit, ici il n'y a pas de particules, d'accord? Mais si je prends un appareil plus petit, je vois des particules. Donc, si je regarde à petite échelle, je vois des particules qu'on appelle virtuelles, mais que je les vois, sont détectables par une expérience. Et il y en a de plus en plus je regarde à petite échelle. Donc c'est un peu comme si on pouvait imaginer que le vide n'est pas vraiment vide, mais il est fait de petites choses virtuelles qui sont créées et après mort. Une espèce d'écume de vie là très petite. Alors ça c'est une idée, c'est une image assez poétique, pas très concrète. Le vide, on l'appelle le vide parce que il n'y a rien. Mais il n'y a rien si on regarde pas très de près. Il y a quelque chose si on regarde de près. Mm-hmm. Et ça c'est vrai pour l'électromagnétisme et donc pour les photons, les particules qui sont les photons, ou pour les particules comme les électrons. Et c'est même vrai, on pense, on n'a pas une théorie confirmée aujourd'hui, par la gravité elle-même. Donc l'espace-temps de Einstein, si on s'attend, comme la plupart des physiciens s'attendent, que c'est lui aussi une chose quantique, devrait avoir, à cette très petite échelle, cette structure discrète et fluctuante qui est le vide quantique.
Eh bien justement, aujourd'hui la physique est désormais en train de faire ses comptes avec la mécanique quantique. L'idée est de se dire que l'espace-temps d'Einstein doit avoir des propriétés quantiques. Et on fait face donc à ce problème, quelles sont les propriétés quantiques de l'espace-temps? On continue d'en parler avec le reportage du jour. Dans le cadre de la relativité générale, on représente l'espace-temps de manière géométrique en fonction de la gravitation. Et on continue d'en parler avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Vous êtes allée au laboratoire d'analyse géométrie et application de l'univers Sorbonne-Paris-Nord à Villetaneuse pour un exercice au tableau pour décrire ce que devient l'espace-temps en conditions de gravité extrême.
En présence d'un trou noir qui forme une singularité, c'est-à-dire un point où la courbure de l'espace-temps et la gravitation deviennent infinies. Autour de l'horizon des événements du trou noir, le professeur François Béguin nous esquisse le futur de cette région qui forme un piège pour toute particule de matière ou de lumière. Mais cette singularité exige un nouveau formalisme, un travail amorcé déjà en 1965 par Roger Penrose dans un théorème de Stephen Hawking que Stephen Hawking reprend ensuite et qui interroge la relativité générale dans ce cas extrême.
Donc, je trace en fait ce qui modélise une tranche d'espace, même si dans le cadre de la relativité générale, il n'y a pas de tranche d'espace absolue. Donc, je trace ce qui va représenter en fait une surface qui va être l'horizon du trou noir pour pouvoir faire un dessin. Parlant, je suis obligé de tracer comme une courbe parce qu'il me faudrait une quatrième dimension pour le tracer comme une surface. Et donc, ça, il faut se le représenter comme étant le bord d'une région de l'espace de laquelle on ne pourra plus sortir.
Donc, ce qui arrive typiquement dans certaines régions d'un trou noir quand on est
exactement
près de son horizon.
C'est l'horizon du trou noir ou une surface qui est à l'intérieur de l'horizon du trou noir qui, en un certain sens, entoure néanmoins le trou noir. Je vais tracer verticalement ce qui va représenter le futur de cette surface, hein, puisque donc, le temps Encore une fois, même si ça n'a pas de sens absolu, est représenté plutôt verticalement et l'espace horizontalement.
Donc on obtient ce cylindre.
Un cylindre vertical dont la base est la surface piégée, qui est ici une courbe. Et ce qui est le plus important certainement, ce sont ce qu'on appelle les cônes lumière, qui sont donc en chaque point de l'espace-temps, on a un cône et l'intérieur de ce cône, c'est l'ensemble des directions qui peuvent être suivies par une particule. Le bord de ce cône, c'est l'ensemble des directions qui peuvent être suivies par un rayon de lumière. Donc à l'extérieur, je dessine des cônes, disons, relativement ouverts et surtout relativement symétriques par rapport à la verticale. Ce qui signifie que quand on est à l'extérieur de la surface piégée, une trajectoire de particules, tout en satisfaisant la condition nécessaire de rester dans les cônes, va pouvoir aller librement à gauche, à droite, partir vers l'infini.
Ici, tout va bien.
Exactement.
Pareil de l'autre côté.
Oui, et par contre...
Alors, qu'est-ce qui se passe si on considère un cône à l'intérieur ?
Une des propriétés, justement, en fait, la définition de ce qu'est une surface piégée, c'est le fait que à l'intérieur de mon cylindre vertical, donc ce qui représente la région, le futur de la région qui est à l'intérieur de l'horizon du trou noir, les cônes justement pointent vers l'intérieur, entièrement vers l'intérieur. C'est la géométrie de l'espace-temps est faite de cette manière. On peut penser, mais c'est une façon de penser qui est partiellement trompeuse, que les cônes seraient attirés par la concentration de matière. En fait, ce qui est réellement attiré, ce sont justement les particules, la matière,
la lumière.
Et les rayons lumière. Et donc, dès lors que les cônes pointent vers l'intérieur, quand on franchit, comme les trajectoires doivent avoir une direction qui est dans les cônes, elles ne peuvent pas ressortir.
Elles sont piégées, du coup.
Elles sont piégées. Les trajectoires ont tendance à converger vers le centre. Les cônes pointent entièrement vers l'intérieur, donc on ne peut plus ressortir.
Donc leur avenir est tracé
Leur avenir est scellé. Et donc, ce qu'ont démontré Penrose et Hawking, c'est que, en fait, leur avenir est scellé dramatiquement en un sens un peu plus fort. C'est que, contrairement à ce que j'ai représenté ici, le futur de la surface piégée n'est pas réellement un cylindre vertical, mais plutôt, stricto sensu, une surface qui se referme sur elle-même. Donc ces trajectoires vont être piégées au sens propre et le ravenir va devoir cesser au bout d'un temps fini.
C'est la figure que vous allez représenter au-dessus ?
C'est la figure représentée au-dessus où on voit la même surface piégée, qui est la courbe bleue horizontale, mais son avenir qui n'est plus un cylindre vertical, mais une sorte de pyramide qui se referme sur elle-même. Voilà. Et les trajectoires sont effectivement piégées dedans. Et si on admet, ce qui est la base de quasiment toute la physique, que les trajectoires ne peuvent pas revenir dans leur passé, la seule conclusion possible, c'est que ces trajectoires vont cesser d'exister au bout d'un temps fini.
Le terme « cesser d'exister », c'est-à-dire que ces particules se transforment, s'annihilent en d'autres particules virtuelles ?
Non, c'est bien pire que ça. C'est réellement l'histoire même du rayon de lumière ou de la particule ou de cette trajectoire cesse au bout d'un temps fini, exactement comme quand on dit que le Big Bang est en fait seulement un nombre fini d'années dans notre passé. C'est évidemment assez choquant pour notre intuition quotidienne. Mais...
Elle cesse d'exister parce que aussi nos moyens sont limités pour comprendre ce qui se passe dans ce cas limite et au-delà.
Bien entendu, elle cesse d'exister dans le cadre de cette théorie. Ensuite, ça laisse deux possibilités. Soit on admet cette conclusion stricto sensu, soit on considère que cela signifie que la théorie, en l'occurrence la relativité générale, n'est pas suffisante pour décrire et qu'il faut donc compléter cette théorie en un certain sens ou trouver un autre modèle qui serait valable dans ces régimes-là.
Merci Céline Lauzen. Nos reportages pour sortir des studios et pour se frotter à la recherche scientifique en cours, c'est notre collection La Science au Labo et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Carlo Rovelli, pour conclure et pour réagir à l'écoute de ce reportage, un des enjeux actuels de la physique, et vous le savez, vous êtes bien placé pour en parler, c'est bien de comprendre les propriétés quantiques de l'espace-temps.
Oui, nous venons d'entendre que si on tombe dans un trou noir, on ne peut pas en sortir. Mais cela, c'est vrai seulement si la relativité générale est exactement correcte. Et Einstein lui-même, en 1916, a commencé à écrire, faites attention, parce que ma théorie de la relativité générale n'est pas la fin de l'histoire. C'est lui qui le premier qui l'a dit, parce qu'il y a des phénomènes quantiques. Donc, moi, je m'attends qu'en considérant ce phénomène quantique, si on rentre dans notre trou noir, finalement, on peut sortir. Il n'y a pas de singularité. On peut passer à travers cette singularité et sortir du trou noir. Alors, pour cela, il faut développer une théorie quantique de la gravité, qui a été finalement le travail de ma vie, avec beaucoup d'autres, évidemment, construire une telle théorie. Alors, la théorie des boucles est une théorie qui prédit effectivement ce qui se passe dans les singularités, là où la relativité générale ne marche plus, là où Einstein même disait « il ne faut pas faire confiance à ma théorie », et prédit que ces singularités n'existent pas, on peut passer à travers, et une des conséquences, c'est qu'on rentre dans un trou noir, on passe à travers la singularité, on peut sortir.
Nous, on va bientôt malheureusement devoir sortir de cette émission, mais une dernière question pour vous, Ludovic Ducobu, puisque là, on a la direction de la gravité quantique, mais il y a aussi plein de questions qu'on peut se poser sur la thématique de l'espace-temps, notamment en allant vers la théorie de la gravité modifiée, des théories alternatives à l'espace-temps.
Oui, tout à fait. Ça connecte un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux questions de l'énergie noire et de la matière noire. C'est que finalement, on observe des choses qu'on a du mal à comprendre. Là où, bien sûr, je dirais pas qu'il faut pas essayer de quantifier la gravité, on se dit a priori que c'est quelque chose qui va arriver plutôt à petite échelle ou dans des régimes extrêmes. Et pour essayer du coup de comprendre l'énergie noire, la matière noire, qui sont des choses qu'on voit par contre là plutôt à très très grande échelle, essayer de galaxies, de familles de galaxies ou de l'univers dans son entièreté, il y a des gens qui, dont moi, ça fait un peu partie de mon domaine de recherche, qui essayent de voir si on ne devrait pas modifier la théorie d'Einstein de la relativité générale avant même d'essayer de la quantifier. Peut-être qu'une des raisons, on n'est pas sûr, mais une des raisons pour lesquelles c'est si difficile de trouver une théorie quantique de la gravité, c'est peut-être parce qu'il faut essayer de quantifier quelque chose qui est déjà un peu différent de la théorie d'Einstein au départ, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs incompatible avec l'approche qu'on vient d'entendre ici de Monsieur Rovelli. Les idées se rejoignent à plein d'endroits. Mais donc oui, il y a des, pour conclure là-dessus, il y a des théories qui modifient la gravité ou qui essayent de l'exprimer, d'ailleurs parfois sans la modifier tout à fait, qui essayent de l'exprimer avec de nouvelles idées avant même d'essayer d'aller à l'échelle quantique. On connaît très bien la courbure de l'espace-temps qui vient dans la théorie d'Einstein, mais il y a des théories qu'on appelle par exemple les théories téléparallèles de la gravité, où là c'est une autre propriété beaucoup moins connue du grand public, qu'on appelle la torsion, qui encode les effets de la gravité. Et on peut arriver, dans certains cas, avec le même genre de conclusion.
Voilà. Et voilà, une des raisons pour laquelle la physique contemporaine est palpitante aujourd'hui. Un grand merci à vous deux. Comme chaque jour, là tout de suite, on retrouve Alexandra Delbeau, qui nous parle aujourd'hui de chiens. Nos compagnons à quatre pattes modifient la composition de l'air intérieur. Oui, oui, c'est la chronique avec science.
Les chiens modifient-ils la qualité de l'air intérieur ? Quand on ferme nos fenêtres, on peut avoir l'impression de se protéger de la pollution. On pense aux particules fines liées au transport, mais aussi aux autres polluants, des industries, de l'agriculture ou des travaux. On peut aussi ajouter les sources naturelles, le pollen, les embruns ou encore les brumes de sable. Pourtant, l'air intérieur peut être tout aussi pollué que l'air extérieur. Dusan Lichina est professeur associé à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et directeur du laboratoire Hubble à Fribourg.
L'air intérieur, ce n'est pas juste de l'air extérieur qui est entré dans un bâtiment. Une fois que l'air entre dans une zone, il change, il se mélange avec des émissions venant des personnes, des matériaux, des meubles, des activités, cuisine, le ménage, la présence humaine, etc. On trouve des gaz comme le dioxyde de carbone, l'ammoniac et des composés organiques volatiles, les COV. On trouve aussi des particules, certaines très petites, autres plus grosses, et des micro-organismes comme des bactéries et des champignons. Ces éléments ne sont pas juste présents ou absents. Leurs concentrations peuvent beaucoup varier selon ce qui se passe dans la pièce.
Et nous passons beaucoup de temps dans ces pièces, surtout en ce moment. Et donc, même à faible dose, parce que cette exposition est répétée, elle peut avoir des effets sur la santé. Vivre dans un air pollué est associé à des symptômes respiratoires, à des irritations, voire à certaines pathologies. On sait donc que les humains influencent leur propre qualité de l'air. Mais qu'en est-il des animaux de compagnie, et en particulier des chiens? C'est ce qu'a voulu déterminer cette nouvelle étude parue dans Environmental Science and Technology, grâce à un dispositif expérimental assez inédit. C'est une chambre climatique, une petite pièce de 25 mètres carrés, bardée de capteurs, dans laquelle on contrôle tout. C'est assez unique et jamais aucun chien n'y était entré. Ils n'étaient pas seuls, pour des raisons éthiques et scientifiques, ils étaient accompagnés de leur humain préféré et de leur jouet. Plusieurs races ont participé à l'expérience, des chihuahuas, des mastifs tibétains et des terre-neuves, en clair un petit et des grands chiens, et résultat sans trop de surprise, oui, les chiens influencent de façon mesurable la qualité de l'air intérieur.
Et d'abord, on a montré que les chiens produisent des gaz, notamment de dioxyde de carbone et de l'ammoniac. Et pour les grands chiens, certaines émissions étaient du niveau adulte. Et ensuite, on a montré que les chiens sont des sources importantes de particules, surtout des particules plus grosses. Et quand les chiens bougent ou jouent avec leur propriétaire, on observe des augmentations rapides des particules dans l'air. Donc, oui, dans la pratique, les particules sont une partie importante de l'histoire avec des éléments qui viennent du chien et la poussière et aussi des particules d'origine biologique.
Attention à l'interprétation de cette étude. Personne ne dit ici que les chiens sont mauvais pour la qualité de l'air ou qu'ils la polluent, seulement que ces animaux modifient l'air intérieur de façon physique, biologique et chimique, et cela n'avait encore jamais été pris en compte. Le dernier résultat concerne directement les papouilles que l'on fait à ces animaux. Dans l'air intérieur, il peut y avoir de l'ozone. Or, lorsqu'il rentre en contact avec notre peau, il réagit avec certains composés naturels, comme le squalène, et cela produit des particules ultra fines. Les chiens n'en possèdent pas naturellement, mais lorsque nous les caressons, eh bien nous déposons sur leur pelage de minuscules résidus de notre peau. Et la réaction chimique peut alors se produire sur eux aussi. Tout l'intérêt de ces mesures est de pouvoir les intégrer dans des modèles de qualité de l'air intérieur pour qu'ils soient plus justes, avec l'idée à terme de fournir des recommandations aux propriétaires de chiens. Là, il est encore trop tôt pour en donner. C'est la toute première étude du genre et beaucoup de paramètres doivent encore être étudiés, comme l'influence par exemple de l'hygiène des chiens. Côté purement humain, plusieurs gestes simples sont à adopter selon Santé publique France. Aérer son logement au moins 10 minutes par jour, hiver comme été. Aérer surtout lorsqu'on cuisine, qu'on nettoie, qu'on bricole après la douche. Ne pas boucher les entrées et sorties d'air. Et surtout, le propre n'a pas d'odeur, pas besoin de javel ni de parfum d'intérieur. Et j'insiste donc, pas besoin de se séparer de votre toutou.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Loïc Dutoit, Louise Ormond-Séji. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique, aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.